Alors, on a partagé avec, avec Jackie et avec Victor des études sur les textes qui se trouvent dans Romains. Alors pour Jackie, c'était ici, pour moi aussi, et toi, c'était à Saverne que tu avais étudié Romains ? 14, ouais. Alors je me suis dit, bon ben, on y va, on continue. Hein. Donc le chapitre 14, quand nous ne sommes pas du même avis. Ça arrive ça entre chrétiens ? Alors moi, au cours de ma vie, j'ai découvert plein de choses au sujet desquelles les croyants avaient des avis différents. Le port du pantalon par les femmes. Bah, vous rigolez, mais ma grand-tante a fait promettre à ma maman de ne jamais porter de pantalon tant qu'elle serait en vie. Et ma maman a tenu la promesse. Bon, maintenant que la grand-tante est décédée, elle met des pantalons aussi. La longueur des cheveux des femmes et des hommes, la musique rock'n'roll, le rap, le voile sur la tête des femmes, et puis ça a été la vaccination de la Covid. Manger du boudin, travailler le dimanche, et puis des choses plus spirituelles, le parler en langue. Oui, j'ai vu toutes ces choses-là dans ma vie, et j'ai vu beaucoup de souffrances, de disputes, beaucoup de choses qui ne devraient pas être dans l'Église, et je suis sûr, j'en oublie bien sûr, hein. Quand je le dis comme ça, ça a l'air d'être amusant comme inventaire. Mais que de tensions dans les familles et parfois même de départ de gens des églises. Alors ces problèmes n'ont pas attendu le 20e ou le 21e siècle pour se développer dans les églises. On le retrouve dès le début et les apôtres ont donné des enseignements à ce sujet. Et donc, je vous propose de lire ce texte de la lettre de Paul aux Romains, qui se trouve au chapitre 14. Mais d'abord, le contexte. On parle de viande qu'on mange ou qu'on ne mange pas, ou de légumes. Moi, ça résonne ici. Ça va pour vous, ça ne résonne pas ? En fait, au marché, la viande qui était vendue à cette époque pouvait venir d'une bête qui avait été sacrifiée à des idoles. Certains chrétiens en mangeaient sans se poser de questions, car pour eux, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas d'idole. Pour d'autres chrétiens, les idoles existent et ils ne veulent pas être en relation avec ces idoles, et donc ils ne veulent pas manger la viande qui appartient à ces idoles. À cette époque, le dimanche, tout le monde se retrouvait pour rendre un culte au Seigneur, mais aussi pour manger ensemble. Et donc certains mangeaient de la viande, et d'autres ne mangeaient que des légumes, et ils n'étaient pas du même avis. Alors je vous propose de lire ce texte, donc dans Romains 14, à partir du verset 1. Accueillez celui qui n'a pas une foi solide. Ne critiquez pas ce qu'il pense. Par exemple, quelqu'un croit qu'il peut manger de tout, mais quelqu'un d'autre qui n'a pas une foi solide mange seulement des légumes. Celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas certains aliments. Et celui qui ne mange pas certains aliments ne doit pas juger celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? S'il reste debout ou s'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Et il restera debout parce que le Seigneur est capable de le soutenir. Quelqu'un pense que certains jours sont plus importants que d'autres. Quelqu'un d'autre pense qu'ils sont tous pareils. Chacun doit être bien persuadé de ce qu'il pense. Celui qui fait des différences entre les jours fait cela pour le Seigneur. Celui qui mange de tout fait cela pour le Seigneur car il remercie Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout fait cela pour le Seigneur et lui aussi remercie Dieu. Personne parmi nous ne vit pour soi-même et personne ne meurt pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Alors, en vivant ou en mourant, nous appartenons au Seigneur. Voilà, donc dès le début de l'Église, il y a déjà des tensions entre ceux qui mangent de la viande, ceux qui mangent que des légumes, ceux qui mettent un jour spécial et ceux qui ne font pas de jours spéciaux. Et ici, l'apôtre Paul, il met en évidence deux attitudes qui sont des poisons. Le jugement et le mépris. Celui qui se prive de quelque chose juge celui qui ne se prive pas. Par exemple, il n'a pas honte de manger du steak sacrifié à Mars. Et celui qui ne se prive pas, il méprise, il se moque de celui qui se prive. Il ne comprend rien. Il croit encore à des dieux comme Mars, et pourquoi pas Mercure, comme ça, ça fera M&M's. Comment Paul propose-t-il de sortir de cette relation malsaine ? Imiter Dieu. Imiter Dieu. Et alors, dans le texte que nous venons de lire, il nous propose d'abord d'accueillir, comme Dieu a accueilli, sans critiquer, des opinions. Quand vous êtes tourné vers Dieu, Dieu vous a accueilli. Quel que soit votre arrière-plan, il ne vous a pas accueilli parce que vous étiez des bons chrétiens, il vous a accueilli parce que vous avez demandé pardon pour vos péchés. Donc il a accueilli des pécheurs de toutes sortes. Oui, nous aussi, Dieu nous demande d'accueillir les autres, sans critiquer les opinions. Imiter Dieu, c'est aussi reconnaître que Dieu est capable de lui donner la force de rester debout. Oui, quelqu'un fait des trucs qui ne nous semblent pas bien, mais est-ce que je vois Dieu qui est plus grand, Dieu qui l'a fait tenir debout ? Comme d'ailleurs Dieu me fait tenir debout moi. Reconnaître aussi que si l'autre fait quelque chose qui me semble bizarre, mais il le fait pour le Seigneur. Il vit pour le Seigneur, il meurt pour le Seigneur. Oui, imiter Dieu, accueillir, voir la puissance de Dieu dans l'autre et accepter que ce qui me dérange chez l'autre, eh bien l'autre le fait peut-être pour Dieu. Voir aussi en l'autre celui pour qui Christ est mort. Ça signifie voir sa valeur. Combien il vaut ? Quel est son prix pour Dieu ? Le prix de la vie de son Fils. Il n'y a rien de plus précieux. Du coup, je ne peux plus juger ou mépriser celui pour qui Christ est mort, parce que Christ a donné sa vie pour lui. Oui, imitons Dieu, essayons de voir comme lui voit les autres, estimer comme lui les estime, croire en sa puissance qui est capable de nous garder, de nous transformer en son image, nous-mêmes, mais aussi ceux qui sont différents de nous. Voilà. C'est super, mais alors pourquoi est-ce qu'on se dispute encore ? Je vais vous dire quelque chose. C'est parce qu'on aime avoir raison. Hein ? Vous êtes marié, vous êtes amoureux, et vous disputez. Parce que chacun veut avoir raison. Le plaisir d'avoir raison, parce que cela nous valorise. On se sent mieux que l'autre, on sait plus que l'autre. Et d'ailleurs, c'est la première chose que Paul souligne quand il parle de ce thème des viandes sacrifiées aux idoles, aux croyants de la ville de Corinthe. Au chapitre 8 et au verset 1 de 1 Corinthiens, Paul dit « La question des animaux offerts en sacrifice aux faux dieux, c'est sûr, nous la connaissons tous, comme vous dites. Mais cette connaissance gonfle d'orgueil. » La traduction Louis II dit « enfle d'orgueil ». Ça gonfle comme une piqûre de... On le dit aussi en français, on a les chevilles qui enflent. On est tellement mieux que l'autre, on sait tellement mieux que lui. Cette connaissance gonfle d'orgueil. Au contraire, l'amour construit la communauté. Le piège dans lequel nous tombons très souvent, c'est ce piège de la connaissance, le plaisir d'avoir raison, de savoir, alors que l'autre ne sait pas. Et on se gonfle d'orgueil et on fait du mal, au lieu d'être rempli d'amour et de construire. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous appelle à la raison. Il dit « Ne détruis pas ton frère en Christ pour un droit que tu as, pour de la nourriture que tu penses avoir le droit de manger. » Ne détruis pas ton frère pour qui Christ est mort. Eh bien, Jésus, il a encore un discours plus fort que Paul. Alors là, accrochez-vous à votre chaise, parce que Paul, il est bien gentil, il dit, voilà, fais des efforts, ne fais pas tomber ton frère. Mais Jésus nous dit, on va lire ce texte qui se trouve dans Marc, au chapitre 9. Ils arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir pris dans ses bras, il leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un de ces petits-enfants, c'est moi-même qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Waouh ! Jésus, là, quand il enseigne ses disciples, il dit « Ah, vous voulez savoir qui est le plus grand ? Quand vous l'aurez trouvé, quand vous le serez, c'est quand vous serez le serviteur des autres, quand vous serez le plus petit, alors vous serez les plus grands. » Alors du coup, celui qui veut avoir raison, celui qui sait mieux que les autres, il est toujours, il n'est pas du tout le premier. Même s'il se croit le premier, d'après l'échelle de Jésus, il en est loin. Et Jésus prend un petit enfant et il le prend dans ses bras. On aimerait bien être à la place de ce petit, dans les bras de Jésus. Il le prend dans ses bras parce qu'il l'aime. Il est précieux. Et il dit, voilà ce que vous devez faire. Quelqu'un vient chez vous, accueillez-le. Prenez-le sur votre cœur. Aimez-le. Parce que si vous faites ça, c'est moi que vous aimez. Et si c'est moi que vous aimez, c'est le Père que vous aimez. Alors je dis, pourquoi il faut s'accrocher sur la chaise ? C'est parce qu'un peu plus loin, il y a le verset 42. « Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette à la mer. Oups. Je crois que ce n'est pas le moment de faire trébucher quelqu'un pour une histoire de cheveux, de jupe trop courte ou trop longue, ou de choses comme ça, si c'est pour finir au fond de la mer avec une grosse pierre. Oui, cet orgueil de savoir mieux que les autres. Si tu en sais plus, si tu penses que tu es le plus grand, alors tu devrais être le dernier, le serviteur de tous, celui qui accueille et pas celui qui rejette. Jésus, en enseignant ses disciples, disait « Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez-leur et Dieu vous pardonnera. » Oui, si nous avons la vraie connaissance de Dieu, alors nous ne serons pas dans la critique de l'autre, de son manque de connaissance, mais dans l'accueil avec amour. Dans le texte de Romains, il y a tout ce chapitre 14 qui développe tous les arguments pour montrer qu'il nous faut accueillir l'autre, qu'il faut savoir aussi renoncer à nos droits. Et ça continue même au chapitre 15. Vous imaginez, tout un chapitre, ce n'est pas juste un petit verset, tout un chapitre entier et encore la moitié du chapitre 15. Donc je vous invite à regarder les 6 premiers versets de ce chapitre 15 pour voir encore quelques points pratiques pour pouvoir vivre ensemble les différences d'avis et d'opinions dans l'Église. Donc dans Romains 15, au verset 1, « Nous qui sommes forts, nous devons porter la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force. Nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Chacun de nous doit chercher à plaire aux autres pour le bien, pour construire la communauté. Le Christ, lui, n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Au contraire, les livres saints disent « Les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi ». En effet, tous les livres saints, écrits autrefois, ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. La patience et le courage viennent de Dieu. Que Dieu vous rende donc capable d'être bien d'accord entre vous en suivant l'exemple du Christ Jésus. Alors, d'un même cœur et d'une même bouche, vous pourrez rendre gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, donc encore 3 points pour vivre ensemble, pour apprendre à vivre avec nos différences. Donc la première chose qu'on apprend ici, c'est qu'on nous demande de renoncer à nos droits si ces droits heurtent les plus faibles. En quoi est-ce mal de manger de la viande s'il n'existe pas d'autre Dieu que Dieu ? Parce que cela pousse le faible à en manger aussi tout en ayant mauvaise conscience. En agissant contre sa conscience, il pêche contre Dieu. Alors, je vais essayer d'expliquer ça avec une histoire. Une histoire, j'espère, plus simple et pas plus compliquée. Alors, dans une famille, la maman se promène avec le petit Jean. En voyant des coquelicots, le petit Jean veut en cueillir. La maman l'arrête et lui dit que cela serait dommage de cueillir ces fleurs dont la floraison est tellement courte. Vous savez que le coquelicot, on le cueille, on le ramène à la maison, on le met dans le vase et dans l'heure, les pétales tombent. C'est très court. Quelques jours plus tard, Jean et sa grande sœur Chloé sont dans un pré et sa sœur cueille un bouquet de marguerites. Jean lui dit qu'il ne faut pas que maman les préfère dans la nature. Mais Chloé lui répond « Regarde comme il est beau ce bouquet et comme maman sera heureuse d'avoir des fleurs. » Alors à contre-cœur, Jean cueille des coquelicots pour mettre un peu de rouge dans ce bouquet. Et quand ils arrivent à la maison, Il n'ose pas regarder maman dans les yeux quand Chloé tend le bouquet. Il a fait quelque chose contre sa conscience. Et cette relation qu'il a avec sa maman, elle est un peu entamée, un peu brisée. Ça va, l'histoire ? C'est pas trop triste, mais je crois que c'est un petit peu cela qu'il faut comprendre. Que oui, nous avons, nous chrétiens qui sommes affermis, qui connaissons le Seigneur, qui connaissons la parole, nous avons plein de libertés. Mais parfois, ces libertés poussent les autres à faire des choses qui n'ont pas bonne conscience. Et donc, l'apôtre nous dit, bah, renoncez à ces droits. Hein? Ne mangez pas de viande avec ses amis qui considèrent que la viande pouvant être sacrifiée avec des idoles est quelque chose qui n'est pas pur. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi nous laisser instruire par les livres saints, par la Bible, par les évangiles. Le faible n'a pas vocation à rester faible tout le temps. Il a besoin de grandir dans la foi. Et parfois, parmi les faibles, ben, il y a aussi des gens qui n'ont pas envie de grandir et qui ont plaisir à avoir raison et à mettre sur les autres leur vue, à leur imposer. Eh bien, laissons-nous instruire. Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Oui, laissons-nous instruire. La parole de Dieu nous corrige. Il y a des choses que je croyais il y a 30 ans dans ma vie chrétienne. Je croyais que c'était ça, que c'était important. Et puis maintenant, je me rends compte que non, c'est pas important. C'est le Seigneur qui est important, c'est d'autres choses qui le sont. Oui, laissons-nous instruire par la parole de Dieu. Et la troisième chose, c'est d'imiter Jésus-Christ. Imiter le Seigneur Jésus. Jésus n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Il a été insulté à notre place. C'est lui qui a pris les insultes. Il a pris sur lui nos mauvaises actions, nos péchés, et il a été condamné à notre place. Nous aussi, faisons comme Jésus et prenons aussi sur nous les faiblesses de nos frères et sœurs. Parce que Dieu donne patience et courage à ceux qui prennent ce chemin. Voilà, j'aimerais terminer ce survol de ce chapitre 14 et un petit peu du chapitre 15 et souligner que c'est un peu le fruit d'une faiblesse. Paul était obligé d'écrire ce chapitre 14 et ce chapitre 15 parce que nous, les êtres humains, on a une faiblesse. On veut toujours remplacer la foi en la grâce et le commandement de l'amour de Jésus par des petites règles sécurisantes, faciles à comprendre, faciles à imposer aux autres. C'est une faiblesse. Mais nous avons appris que le royaume de Dieu n'est pas une question de nourriture et de boisson. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par l'Esprit Saint. Je cite ici les textes de Romains 14. Ce n'est pas cela, le royaume de Dieu, c'est toutes ces règles. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie donnée par le Saint-Esprit. Et ça nous est donné parce que nous mettons notre confiance en Jésus. Oui, par la foi, en la grâce de Dieu. Du coup, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe quand nous accueillons les uns et les autres? Eh bien, nous nous trouvons dans ce que Jésus dit à ses disciples. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'aimerais presque dire, hein, là où deux ou trois sont rassemblés, c'est tout de suite les disputes et les avis différents. Non. Si nous sommes rassemblés en son nom, en imitant Jésus, eh bien Jésus est là et Jésus nous accorde ce que nous demandons. Voilà, l'Église, c'est vraiment ce lieu d'accueil. Et je me réjouis de voir que nous venons de tellement d'horizons différents, d'Allemagne, de Suisse, d'Iran, de Madagascar, de France, d'Alsace même. Et nous sommes là parce que Jésus nous a unis. Je vous invite à rendre grâce. Oui, merci Seigneur pour ton accueil. Merci Seigneur pour ton amour, pour le pardon de nos péchés. Merci pour le Saint-Esprit qui nous donne la joie et la force. Seigneur, merci pour le pardon, oui, de nos péchés, lorsque nous nous disputons, lorsque nous voulons avoir raison. Glorifie-toi encore au milieu de nous, que cette église de Bouxwiller, Seigneur, tu puisses l'utiliser pour accomplir tes œuvres. Au nom de Jésus. Amen.